Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité. Par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales. Et son complice, Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Eric.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Bien écoute, je vais comme quelqu'un qui vit dans un pays qui se déconfine progressivement et qui découvre dans les actualités que pour l'instant le nombre de cas chaque jour diminue, le nombre de morts chaque jour diminue, donc je suis dans une perspective d'espoir.
Très bien.
Et toi-même, Eric?
Je partage tout à fait cet espoir-là, et j'espère qu'il sera durable, surtout parce que l'histoire nous a montré qu'il pouvait y avoir des rebondissements, donc évidemment, une fois de plus, nous répétons qu'il faut conserver toute la prudence nécessaire dans nos rapports sociaux, de façon à éviter qu'une nouvelle épidémie ne se répande à travers le pays. Alors, justement, Renaud, comme on est dans cette phase un peu décroissante de l'épidémie, l'heure est peut-être au bilan, et nous avions proposé à nos auditeurs, il y a déjà, dès le début de cette série d'émissions, de faire une série de numéros consacrés à l'après-crise, à l'après-épidémie. Et c'est ce que nous allons démarrer aujourd'hui, puisque tu te proposais, je crois, de parler de la question des emplois, qui a été tout à fait au cœur de la crise, hein, puisqu'on a beaucoup parlé des emplois qui étaient très exposés aux risques épidémiques. Et ces emplois, on les connaît tous, sont les emplois d'infirmières, aides-soignantes, caissières du supermarché, éboueurs, etc.
Et surtout de parler de leur salaire. Voilà. L'idée, voilà. Ça va surtout être de faire le point sur ce qu'il s'est passé depuis une vingtaine d'années en France dans l'évolution des rémunérations, qui ont été à l'avantage de certains et au désavantage d'autres, et de voir quels sont les projets plus ou moins utopiques que l'on peut avoir en tête pour ce que l'on appelle le monde d'après, qui sera au moins en partie le monde d'avant, mais avec, espérons, des évolutions positives.
Alors justement, Renaud, cette question du monde d'après, on en a beaucoup parlé, surtout pendant. Mais maintenant qu'on est après, finalement, on en parle un peu moins. C'est un petit peu étrange. Évidemment, on n'a pas oublié quand même l'espoir qu'a suscité la réflexion qui a présidé à cette crise. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'expressions d'opinion durant ces deux derniers mois. Et beaucoup concluaient à la nécessité de refonder un certain nombre de choses, aussi bien dans la politique que dans l'économie. Notre but aujourd'hui, et dans les émissions à venir, ça va être un petit peu de réfléchir à cette question-là, et de savoir si c'est possible, et surtout même si c'est souhaitable, et si on a des bases pour ça. Pour le moment,
tout à fait.
On a plutôt l'impression que ce monde d'après reste totalement hypothétique.
Bien, par nature, de toute façon, lorsque vous souhaitez mettre en place un système qui va au moins en partie révolutionner l'existant, on se doute bien que les choses ne vont pas se faire d'un claquement de doigts ni spontanément, tant cela risque de remettre en question un certain ordre établi et certaines positions établies. Donc, si monde d'après il doit y avoir, nécessairement cela passera par des mobilisations et par un rappel fort au gouvernement en place des possibilités de direction autres qu'il nous a proposées. Je rappelle quand même cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron lors d'une de ses allocutions, je ne sais pas si tu t'en souviens, Eric, où il dit que dorénavant, il faudrait que les rémunérations soient beaucoup plus fondées sur, je cite, l'utilité commune des emplois et non pas nécessairement leur productivité marchande. Voilà.
Là, c'est tout à fait ça, alors là, parce qu'il y a quand même eu des engagements. Hein. Évidemment, il y a eu des promesses, même si elles n'étaient pas extrêmement précises. Et depuis quelques jours, maintenant, nous sommes rentrés dans la phase justement de revalorisation des emplois des métiers de la santé, qu'on appelle le Ségur de la santé. Est-ce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui ?
Non, nous allons en parler, mais d'abord je voudrais faire le point sur l'existant, sur l'état des inégalités salariales aujourd'hui en France, pour qu'on comprenne bien d'où l'on vient, pour voir, parce que si on comprend d'où l'on vient, on va un peu mieux saisir vers où il faut aller.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Et donc, avant de parler des revalorisations qui sont promis, alors pour l'instant uniquement au monde soignant, je signale. Hein, pour l'instant, il y a rien pour les caissières, rien pour les éboueurs, rien, quasiment rien pour les enseignants. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'est pas dans un monde révolutionnaire. On est dans une promesse d'augmentation plus ou moins substantielle des salaires des soignants. Alors c'est très important pour eux, et évidemment que ça doit être fait, mais ça ne changera pas que le monde tel qu'il existe, si on ne fait que ça, ne changera pas. Et justement, l'idée, c'est d'essayer de voir voilà, vers quelle direction il faudrait, enfin, en tout cas, on pourrait nous estimer qu'il serait préférable d'aller.
Très bien. Alors, donc, ces inégalités, Renaud, on en a déjà parlé dans de nombreuses émissions précédentes à celle-ci, il y a plusieurs années déjà. J'imagine que l'état de la situation depuis qu'on a fait ces émissions n'a pas beaucoup évolué.
Tout à fait. Disons que ça a évolué dans un sens qui est malheureusement, de mon point de vue, allait dans la direction qui avait commencé à être celle prise à la fin des années 90, c'est-à-dire dans une situation, dans un monde qui est de plus en plus inégalitaire. Voilà. Donc, juste en quelques chiffres et quelques mots très rapides, et je crois d'ailleurs que tu auras un petit extrait sonore
une
à nous faire écouter.
Une petite illustration sonore, oui.
Juste pour aller à l'essentiel, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail. Jusqu'à la révolution industrielle, c'est-à-dire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, en gros, le monde est globalement pauvre au sens économique du terme, c'est-à-dire que si tu prends les PIB par habitant des différents pays et des différentes zones géographiques, alors évidemment avec toutes les précautions d'usage sur les données que produisent les économistes à ce sujet, parce que pour savoir réellement quel était le PIB par habitant de l'Afrique dans le bas Moyen-Âge, bon, il y a quelques acrobaties quand même. Voilà, mais en tout cas, on essaye de faire des estimations. Et si on prend au début de la révolution industrielle, nous vivons dans un monde qui est globalement pauvre, mais où il y a une petite poche de richesse, enfin de richesse relative, en Europe, parce que l'Europe a commencé justement à avoir une pré-révolution industrielle, mais les écarts sont très faibles. Et pour aller à l'essentiel, si tu compares l'Europe de l'époque à l'Afrique, qui sont les deux zones géographiques extrêmes, on a un écart de PIB par habitant qui oscille entre 1 et 2 et 1 et 3. Voilà, donc à peu de choses près, ce qui n'est pas énorme, et surtout qu'on est sur des montants qui sont faibles. Donc, d'autant plus. Donc, en moyenne, un Européen à l'époque qui fait partie de la zone géographique la plus riche du monde n'est pas tellement plus riche qu'un Africain, un Asiatique ou un Américain. D'accord. Aujourd'hui, si tu compares la zone la plus riche du monde, c'est-à-dire États-Unis, Canada, Australie, ce groupe-là, à la zone la plus pauvre, qui reste encore aujourd'hui l'Afrique subsaharienne, on a un écart qui va de 1 à 50. Voilà, en moyenne.
Ouais,
en moyenne.
C'est beaucoup, beaucoup plus.
Donc, le capitalisme a généré deux grandes choses. Un extraordinaire accroissement des richesses, pour le meilleur et pour le pire, mais dans le même temps, un extraordinaire accroissement des inégalités de richesse. Cela est plus compliqué si on prend les pays 1 à 1. Et juste, arrêtons-nous sur la France. Au XXe siècle, les inégalités ont globalement augmenté jusqu'aux 30 Glorieuses, et à partir de la deuxième partie des Trente Glorieuses, les inégalités ont diminué. Elles ont diminué jusqu'à la fin des années 90. Donc on a eu une période d'une trentaine d'années où les écarts se sont resserrés. Les sociologues parlent à ce sujet de moyennisation de la société, c'est-à-dire qu'en gros, les classes populaires ont connu une sorte d'ascenseur social vers le haut qui leur a permis de se rapprocher des modalités de consommation des plus riches, et les distributions de salaires se sont légèrement rétrécies.
Ouais, c'est un peu ce qu'on a connu dans notre enfance et notre adolescence, hein, jusqu'aux environs de camp des années 80, jusqu'à la politique néolibérale.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que entre, disons, le début des années 60, voilà, pour aller à l'essentiel, et la fin des années 90, on a une réduction des inégalités, et d'un seul coup, fin des années 90, on a un changement brutal d'évolution, sous l'impulsion, évidemment, tu as tout à fait raison, on va en reparler, d'une nouvelle logique de politique mise en place qui va vers beaucoup plus d'ouverture, de mondialisation et de dumping fiscal. Nous reparlerons de tous ces termes dans une autre émission. Et depuis, les inégalités sont reparties à la hausse. Alors, pour ce faire, je vais juste citer deux chiffres, Eric, qui, je pense, seront plus parlants que tous les discours possibles. Le premier, il concerne les États-Unis. Alors, donc, aux États-Unis, si tu prends les 1% des Américains les plus riches, en 1978, donc tu vois, à la fin des années 70, ils se partageaient environ 11% du PIB américain. Donc, les 1% des plus riches se partageaient 11% du PIB américain. Aujourd'hui, combien ?
85-90%.
Alors, quand même pas. Quand même pas. C'est 1% qui récupérerait 90% de la richesse totale. On pourrait espérer là qu'on ait une révolution sociale aux États-Unis. Non, plus de 20%. Alors, ce qui est déjà énorme, et surtout qui monte l'évolution, la part du PIB accaparée par les 1% les plus riches a doublé en 30 ans. Et dans le même temps, si tu prends les 50% des Américains les plus pauvres, donc la moitié des Américains les plus pauvres, à la fin des années 70, ils se partageaient 20% du PIB américain. Aujourd'hui, ils se partagent environ 12% du PIB américain. D'accord. C'est-à-dire que, bien évidemment, l'accroissement de la part récupérée par les plus riches s'est fait au détriment de la part récupérée par les plus pauvres.
Bien sûr. Voilà. Donc, en fait, la classe moyenne là-dedans, ça veut dire qu'elle n'a pas bougé, qu'elle n'a ni bénéficié ni perdu de ce phénomène ?
Non. Alors, comme nous aurons l'occasion d'en reparler là aussi, les classes moyennes, c'est extrêmement difficile d'en parler parce que déjà, les classes moyennes, c'est un concept sociologique extrêmement mou et extrêmement difficile à définir avec précision parce qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu classe moyenne. Hein. Je me souviens de Jean-François Copé nous expliquant que quand on gagne 5000 euros par mois actuellement en France, on est classe moyenne. Oui. Bon, si on prend les statistiques, non, ça, on n'est pas classe moyenne.
C'était il y a déjà pas mal d'années, Renaud.
Oui.
Et là, on n'en est toujours pas là, hein, quand même.
Voilà, exactement. Donc, classe moyenne, c'est difficile, mais on peut dire qu'effectivement, il y a une frange des classes moyennes. Alors, pour aller à l'essentiel, même si c'est un peu un raccourci rapide de dire ça, celle qui a été symbolisée par les gilets jaunes. Donc, une frange des classes moyennes qui, effectivement, a subi de plein fouet cette évolution des inégalités et est passée d'un monde où cette frange-là avait l'espoir d'une ascension croissante vers un monde où cette frange-là, objectivement parlant, connaît un déclassement.
Mmh. Très bien. Alors, le temps est venu peut-être, puisqu'on en est au constat, Renaud, de dire également que dans cette crise du Covid-19 que nous avons connue, on va le répéter, ce sont certaines professions qui ont été particulièrement exposées au risque épidémique, et ces professions, étrangement, évidemment, on va mettre ça sur le fait du hasard, mais étrangement, ce sont des professions à forte dominante féminine, où les femmes sont fortement représentées, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières ou les caissières de supermarché, eh bien, on assiste là à une surexposition au risque des femmes, ce qui est un petit peu nouveau quand même, puisqu'on n'avait encore pas vu les choses sous cet angle, et pourtant, les inégalités entre les hommes et les femmes existent aussi depuis bien longtemps. Et ce, malgré, je dirais, des dispositions législatives qui ont été nombreuses et anciennes. Rien que sur la question de l'égalité des salaires hommes-femmes, par exemple, il y a eu une loi en 1972, il y en a eu une en 1975. Une des plus récentes, si je puis dire, c'est la loi Roudy du 13 juillet 83 sur la parité, qui a ceci de particulier de montrer que, à égalité de qualification, de capacité, de responsabilité, et de charges physiques nerveuses liées à l'exécution de la tâche, eh bien, les femmes doivent avoir le même salaire que les hommes. Or, aujourd'hui, on assiste évidemment à tout le contraire, puisque la différence de salaire entre les hommes et les femmes est toujours en moyenne de 25% en France, ce qui est considérable. Donc, ce que je te propose, c'est d'écouter un petit extrait sonore d'une économiste que peut-être tu connais, hein, dont le nom est Séverine Lemierre. Elle est maîtresse de conférence en gestion des ressources humaines à l'IUT Paris-Descartes. En tout cas, elle se livrait il y a peu de temps au micro de France Info et voici ce qu'elle disait sur la situation des femmes en France et sur cette situation d'inégalité qui perdure.
cette façon d'assimiler en fait des compétences professionnelles à des qualités féminines participe à ce qu'on appelle la sous-valorisation salariale de ces métiers. Tout simplement parce qu'on ne reconnaît pas l'ensemble de ces activités comme des compétences professionnelles, comme des savoir-faire professionnels, comme des postures professionnelles, comme de la technicité. C'est-à-dire, le fait d'assimiler ça à des qualités retire la valorisation professionnelle et salariale de ces métiers. Alors ça, c'est le fruit souvent de la construction sociale du métier, hein, de l'histoire du métier. Il ne faut pas oublier les infirmières. Historiquement, elles viennent des nonnes dans les hospices, donc de l'ordre de la vocation, vous voyez. La vocation, c'est pas pro, ça se paye pas, c'est de la vocation. Ça teinte beaucoup ces métiers-là. Des métiers aussi qui sont dans le prolongement de ce qu'on fait dans la famille. Tous les métiers de service à la personne, bon ben, ça serait comme ce qu'on fait avec ses grands-parents, ses parents, ses enfants. Ça nuit à leur professionnalisation.
Voilà, donc une professionnalisation des capacités qui ne sont pas reconnues dans le monde du travail. Donc il y aurait une sorte de condescendance à l'égard des femmes dans le monde du travail. Est-ce que ça se constate dans d'autres chiffres, Renaud ?
Alors là, l'extrait est vraiment passionnant parce que tout est dit dans une approche sociologisante extrêmement pertinente. Bon, pour aller à l'essentiel, je reviens tout de suite, mais je tiens à dire la phrase qui précède parce qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Et clairement, si on veut penser à un monde d'après, il va y avoir deux grandes priorités. Si vraiment on veut un monde qui est capable de ne pas reproduire les erreurs du passé. La première priorité, elle sera écologique, et évidemment, on en reparlera dans d'autres émissions. Et la deuxième priorité, c'est la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations. Les discriminations faites aux femmes, les discriminations faites en fonction de l'ethnie, les discriminations faites en fonction de l'orientation sexuelle, etc. Donc là, en l'occurrence, les inégalités hommes-femmes, alors comme je vois que l'heure passe et que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, je devais dire qu'une petite chose, mais on en reparlera bien évidemment dès le début de la prochaine émission, tellement il y a de choses à dire sur là-dessus. Mais effectivement, ce que dit, c'est juste pour rebondir sur l'extrait qui vient d'être donné, c'est que à partir du moment où on associe un métier à des qualités supposées genrées, c'est-à-dire féminines ou masculines, on biaise complètement la représentation de la profession en question. Et ce que dit très bien l'intervenante, c'est qu'effectivement, pour beaucoup de femmes, on va considérer que finalement, avoir un métier, c'est un plus, hein, un truc un peu secondaire, et puis c'est un peu une vocation, parce que les femmes, naturellement, elles sont un peu généreuses, elles sont un peu ceci, elles sont un peu cela. Et bien évidemment, c'est une manière de déqualifier les personnes correspondantes, et qui dit déqualification, dit automatiquement moindre reconnaissance et moindre rémunération. Mais nous en reparlons longuement la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
Très bien, ben nous voilà une fois de plus embarqués dans une série d'émissions qui s'avère tout à fait passionnante. Merci beaucoup Renaud, et donc j'ai hâte d'être à la prochaine fois pour la suite de cette série consacrée à l'après-crise et plus particulièrement aux inégalités de salaire dans le monde du travail.
Merci beaucoup Eric, à la semaine prochaine.
À la prochaine fois, au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulsien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Éric Carlier et Renaud Chartois.